Bonjour et bienvenue dans ce dernier podcast de Décrypter le Yoga. Je suis Daphné du blog Décrypter le Yoga. J'enseigne le yoga à Lyon et je suis aussi passionnée par l'histoire du yoga et je m'interroge notamment sur les rapports entre l'histoire du yoga et le monde guerrier. À ce titre, j'écris actuellement un ouvrage à paraître qui s'intitule « Le yogi est-il un combattant ?» et dont mon blog Décrypter le Yoga vous donne un avant-goût. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je traiterai de la notion d'ahimsa, la non-violence, une notion très complexe et très subtile, comme nous allons le voir. Donc, abordons maintenant la notion d'ahimsa. Ahimsa désigne couramment la non-violence ou la non-nuisance. Elle est centrale dans les traditions philosophiques et spirituelles de l'Inde, notamment le jaïnisme, le bouddhisme et l'hindouisme. Le yoga place ahimsa comme un principe moral fondamental. D'ailleurs, dans le Yoga Sutra de Patanjali, ahimsa est présenté comme le premier des cinq yamas. Les yamas sont les règles de vie en société. Ahimsa y est présenté comme un moyen de purification de l'action, au service de l'ascension spirituelle du yogi. Mais, on pourrait ainsi croire qu'un yogi qui respecte ahimsa ferait vœu de pacifisme. Et pourtant, l'histoire de l'Inde révèle des modalités beaucoup plus complexes d'ahimsa. En effet, quand on plonge dans son histoire, il y a un autre récit qui émerge, marqué par la guerre, les combats et la quête de pouvoir. Dans cette histoire, les yogis jouent un rôle central en tant que guerriers. Et cette facette méconnue de l'histoire du yoga nous confronte à un paradoxe. Peut-on associer la pratique du yoga à la violence ? Autrement dit, peut-on être un yogi et se livrer à des actes violents ? En effet, si le rôle de guerrier semble a priori incompatible avec celui d'ascète, l'existence d'ascètes armés invite à repenser cette opposition. Peut-on encore les qualifier de yogis, ces ascètes armés, si tout en pratiquant le yoga, c'est-à-dire le renoncement, la discipline spirituelle et physique, ils ne respectent pas l'ahimsa ? Et si l'on plonge dans l'histoire du yoga, ce qui est fascinant, c'est que dès le 7e siècle, on rencontre des yogis armés. Ce sont des sadhus armés. Mais lorsqu'on se représente un sadhu, c'est-à-dire un ascète qui a renoncé aux attaches matérielles pour se consacrer entièrement à la libération spirituelle, on le visualise plutôt en train de pratiquer des austérités, ou alors absorbé dans une profonde méditation. Or, il existe des sadhus qui ont pris les armes et qui viennent ici nous confronter à une image qui n'est pas celle qui est habituelle. Selon Matthew Clark, un chercheur à l'Université de Londres, les premiers témoignages de sadhus armés apparaissent au 7e siècle. On en trouve notamment dans une biographie, celle du roi Arsa, qui a été rédigée par le poète Banabata vers 640 de notre ère, dans laquelle on découvre l'histoire fascinante de deux ascètes. Ces deux ascètes sont devenus les gardes personnels du roi. Et loin de mener une vie d'ermite, ils se sont illustrés sur le champ de bataille et sont réputés pour avoir amassé richesse et renommée grâce à leurs exploits militaires. Écoutons cet extrait de la biographie du roi Arsa, où l'on parle de ces deux ascètes. Tandis qu'au bout de quelques jours, le troisième ascète partit dans les bois, Patalasvamina et Karnatala, hommes à l'esprit guerrier, restèrent au service du roi. Devenus riches au-delà de leurs plus grands rêves, dégainant leurs épées au milieu de la garde royale, occupant le premier rang dans les batailles, ils traversèrent les années et vieillirent aux côtés du roi. L'anthropologue française Véronique Bouillet souligne également la présence de sadhus armés dans l'Inde ancienne. À propos de cette même histoire, elle écrit « Depuis fort longtemps, des sadhus armés arpentèrent les chemins de l'Inde du Nord et s'employèrent au service des rois. » Donc ces premiers exemples montrent que certains ascètes, yogis, ne vivaient pas uniquement en ermite isolé, mais jouaient un rôle actif dans la société. Mais est-ce à dire que ces sadhus armés sont incohérents ? Et que représente ahimsa, la non-violence, pour eux ? Tout d'abord, il faut noter que les sadhus peuvent suivre une voie spirituelle individuelle sans passer par des vœux officiels, ni appartenir à un ordre formel, comme c'est le cas des sannyasines, qui sont des membres d'ordres monastiques reconnus et qui prononcent des vœux formels lors de leur initiation. Donc, les règles éthiques des sadhus sont moins rigoureuses, elles sont moins codifiées, ce qui rend leur rapport à la non-violence plus complexe et dépendant de la tradition ou de l'école spirituelle à laquelle ils appartiennent. La nature de l'ahimsa peut donc varier en fonction des courants, et son application est plus ou moins flexible en fonction de la secte. Donc, si la non-violence peut être un idéal pour le sadhu, cet idéal peut aussi être subordonné à d'autres valeurs. Par exemple, si on prend le cas des sadhus Vaishnava, les adorateurs de Vishnu, ils rejettent toute forme de violence, même en cas de nécessité. Ils adhèrent strictement à l'ahimsa en tant que principe spirituel central, car leur voie de sagesse repose sur la compassion et l'amour spirituel, le bhakti yoga. Pour les sadhus agori, qui est une catégorie spécifique de sadhus qui suivent une voie spirituelle particulière associée à la dévotion envers Shiva, sous son aspect destructeur et transcendant, l'usage de la violence est accepté et parfois ritualisé. Les agoris ne pratiquent pas la violence active envers les autres, dans le sens de conflits armés par exemple, mais leur rapport à la violence réside dans une violence symbolique, comme le maniement de cadavres par exemple, l'auto-mortification extrême, la transgression radicale des normes sociales et religieuses, telles que le cannibalisme rituel. Et les sadhus naga, une autre secte, considèrent l'ahimsa comme un principe important mais non absolu. Ils n'hésitent pas à recourir à la violence lorsqu'ils le jugent nécessaire pour défendre une cause spirituelle ou protéger le dharma. Le dharma, c'est l'ordre du monde. Donc l'existence de sadhus naga illustre une application pragmatique de l'ahimsa, où la non-violence est modulée par les exigences du contexte. Et il n'était pas rare de rencontrer des sadhus armés, chargés de protéger les rois et les temples au 7e siècle. Donc, cette représentation d'un sadhu perçu exclusivement comme non-violent est une... Donc, cette représentation du sadhu perçu exclusivement comme non-violent est simplifiée. Elle s'avère réductrice et ne rend pas justice à la diversité et à la complexité des traditions ascétiques ainsi qu'à la richesse de leur approche éthique. Et l'histoire des yogis guerriers ne s'arrête pas au 7e siècle avec l'histoire de ces sadhus dont nous venons de parler, mais elle continue avec l'émergence des guerriers naga à partir du 15e siècle. Donc nous avons vu qu'il y a des traces des premiers yogis armés dès le 7e siècle. En tout cas, c'est ce que l'on peut trouver dans les textes. Sans doute y a-t-il eu des yogis armés avant cette période-là. On comprend que ces yogis se sont armés pour protéger les rois, protéger les temples, et que leur recours à la violence était dans un premier temps sporadique et inorganisé, selon les mots de Véronique Bouillet. Donc, à ce moment-là, il ne s'agissait pas encore d'une véritable organisation militaire. Ce n'est qu'à partir du XVe siècle que l'ascétisme armé se structure davantage avec l'émergence des guerriers naga, notamment les naga shivaïstes issus de l'ordre des sannyasis dasanami. Les sannyasis dasanami appartiennent à une confédération de 10 ordres ascétiques shivaïtes fondée au 9e siècle par Shankara, l'un des plus importants maîtres spirituels de l'hindouisme. Et bien qu'engagés dans la discipline spirituelle et attachés au respect de l'ahimsa, ces ordres furent les premiers à institutionnaliser une branche guerrière vers 1500 de notre ère. Alors, cette militarisation s'expliquait par le besoin de se protéger contre les persécutions exercées par les armées de fakirs musulmans. Mais ces moines étant liés par le vœu formel de non-violence, ils ne pouvaient pas riposter. En effet, la non-violence, ahimsa, est l'un des 5 vœux fondamentaux des renonçants sannyasis dans l'hindouisme. Le sannyasi, en effet, s'engage à ne nuire à aucune créature, que ce soit en pensée, en parole ou en acte. C'est ainsi que Madhu Sudhana Sarasvati, un sannyasi shivaïte du XVIe siècle, sollicita l'aide de l'empereur Akbar en 1565 pour protéger les membres de son ordre. Il créa une armée de sannyasis en recrutant des hommes issus de castes autres que la caste brahmanique, notamment des kshatriyas, les guerriers, et des vaishyas, la classe des marchands. Il faut à peu près 12 ans d'apprentissage spirituel et militaire à ces postulants pour qu'ils deviennent naga et qu'ils puissent intégrer un akara, c'est-à-dire l'institution monastique et militaire qui se charge de former ces yogis guerriers. Véronique Bouillet souligne cependant la contradiction inhérente à cette démarche, parce que l'initiation de ces guerriers, qui dure 12 ans, implique une première année en sannyasa, c'est-à-dire un état supposant un respect strict de la non-violence. En effet, on peut s'interroger comme Véronique Bouillet, puisque il y a une opposition dans le fait que Ahimsa est censé être un engagement fondamental des sannyasis, mais que ici, ça coexiste avec la nécessité de se battre pour défendre leur communauté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour ces moines, la défense de l'hindouisme, qui inclut ses intérêts et ses lieux sacrés menacés par les envahisseurs, prévaut sur l'engagement formel de la non-violence et légitime le recours à la force. Armés et formés au combat, les Dasanami Naga Sanyasi ont donc pour mission principale de protéger leur ordre religieux. La tradition naga s'inscrit dans une lignée guerrière où l'affrontement est perçu comme une nécessité pour préserver les temples, les monastères, les ashrams et les sadhus face à diverses menaces. Donc initialement destinée à repousser les envahisseurs, cette tradition guerrière a pris une importance particulière au cours des invasions musulmanes. Et l'on va voir que ces organisations de yogis guerriers vont prendre de plus en plus de place et vont acquérir de plus en plus de pouvoir. On pourra notamment observer au XVIe siècle une interconnexion entre le pouvoir politique, militaire et commercial de ces yogis guerriers. Pour comprendre un peu ces histoires de pouvoir, il faut qu'on revienne aux nombreuses batailles entre sectes rivales qui ont éclaté au XVIe siècle, notamment lors d'événements majeurs comme la Kumbh Mela. En fait, pour ces groupes, il s'agit d'être prioritaires dans l'accès aux lieux sacrés, afin d'en tirer les meilleurs bénéfices. Alors, il y a tout d'abord les bénéfices spirituels, mais l'enjeu est aussi matériel, puisqu'il s'agit également d'obtenir les meilleures places pour recueillir les dons des pèlerins. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ces rivalités ne se limitaient pas aux luttes entre sectes rivales, mais pouvaient également opposer des branches au sein d'une même secte. Il y a un exemple frappant qui est la célèbre bataille du Taneshvar. Elle est illustrée dans une peinture où l'on voit des yogis se battre à coups de sabre avec des scènes vraiment très violentes. Cette bataille a eu lieu en 1567 dans une ville située au nord-ouest de Delhi. Elle oppose deux branches de la secte Dasanami dont nous venons de parler. Et ses membres, qui appartiennent à des sous-groupes, vont se battre afin d'obtenir la meilleure place dans ce lieu sacré pour recueillir les aumônes. Ce qu'on peut noter avec de tels conflits, c'est que la violence de ces affrontements entre sectes donne à penser que les enjeux n'étaient pas uniquement spirituels et que la défense du dharma, entre guillemets, avait bon dos puisqu'elle permettait de couvrir d'autres activités. Donc il y avait la relation au roi, la relation à l'argent, et il y avait, comme le dit Véronique Bouillet, une interférence entre puissance politique, militaire et commerciale. Le modèle des sannyasis va ensuite inspirer d'autres groupes, notamment des groupes vishnouites, qui vont s'organiser à leur tour en armée pour rivaliser avec leurs adversaires shivaïtes. Les affrontements intersectes, parfois brutaux, vont culminer au XVIIe et XVIIIe, lors d'événements comme la Kumbh Mela. Ces batailles illustrent aussi une transformation progressive où l'ascétisme guerrier devient peu à peu une pratique où la défense spirituelle et le contrôle matériel vont se mêler étroitement. Donc ce phénomène de l'ascétisme armé n'est pas un cas isolé, c'était un phénomène répandu, si répandu que dès le XVIe siècle, le terme yogi ne désignait plus seulement un ascète pratiquant la méditation et les austérités, mais devenait également synonyme d'ascète guerrier. Il y a une très jolie citation de Daniela Bevilacqua et de Mark Singleton dans Journal of Yoga Studies. Je vous cite leurs mots. Le terme yogi devint progressivement un adjectif utilisé pour qualifier tous les ascètes caractérisés par la nudité, les cheveux emmêlés et le corps couvert de cendres, caractéristiques des ascètes guerriers nus, ou naga. Ces derniers étaient également identifiés par d'autres étiquettes telles que gosain, sannyasi, pour les guerriers shivaïtes, vairagi, pour les guerriers vaishnavites, et même fakir pour les guerriers soufis, compte tenu de la participation de ces groupes ascétiques aux campagnes militaires. Donc, nous avons vu l'émergence de ces yogis guerriers avec les sadhus dès le 7e siècle. Puis, on voit qu'à partir du 15e, il y a une organisation militaire qui devient beaucoup plus structurée, beaucoup plus institutionnalisée avec les sannyasis, puis plus tard avec les ordres de yogis guerriers vishnouites. On voit aussi que vers le 16e siècle, ces yogis prennent de plus en plus de pouvoir et qu'il y a une interconnexion entre le pouvoir politique, militaire et commercial. Et ce rôle va continuer à se développer et ces yogis guerriers vont maintenant servir à protéger et à accroître les richesses des monastères à partir du XVIe siècle. Donc ces guerriers ont été utilisés par les monastères pour participer à leur expansion matérielle. Certains d'entre eux sont même devenus des collecteurs de fonds. Ils ont joué un rôle actif dans la gestion économique des institutions qu'ils protégeaient. On est donc loin hein, du yogi paisible en train de méditer en position de lotus sous un arbre avec ses yogis collecteurs de fonds. À ce titre, il y a un poème de Kabir qui se désole de l'éthique des ascètes mercenaires et dont la première phrase est, je cite, « Je n'ai jamais vu de tel yogi frère ». C'est un poème que vous trouverez sur mon site Décrypter le yoga si vous voulez le lire dans sa totalité. Donc dans son poème, Kabir s'indigne du comportement de ses yogis guerriers et oppose à leur soif de richesse des archétypes de sagesse. Alors certains auteurs vont conclure que Ahimsa, pour ses yogis, se limite alors essentiellement au végétarisme. C'est une idée qui est confirmée dans les travaux de Denis Vidal, Gilles Tarabou et Éric Meyer, qui sont des anthropologues et chercheurs français spécialisés dans l'étude de la société indienne, et qui écrivent, je cite, « Les ascètes combattants justifiaient leur recrutement initial, notamment à partir de castes guerrières, par la nécessité désintéressée de protéger les renonçants non-combattants de leur ordre. Il s'agissait de défendre le dharma, une légitimation de la pratique des armes qui permit par la suite à certains de devenir mercenaires ou d'assurer localement des fonctions princières, également redoutées de par leurs ascèses pour leur puissance magique, tous prononçaient un vœu d'Ahimsa qui correspondait donc dans les faits au végétarisme. » Alors, concernant le végétarisme, on pourrait penser que ces yogis sont tous végétariens, ce qui n'est pas le cas, puisque dans ces ascètes combattants, certains sont de castes guerrières. Ils ont l'autorisation de consommer de la viande. Pour ces guerriers, en effet, la consommation de viande est considérée comme une source essentielle de force et d'endurance, et elle est perçue comme légitime pour accomplir leur fonction. Dès lors, y renoncer pouvait symboliser un véritable acte de renoncement et un engagement profond envers l'ahimsa. Mais ici encore, la réalité est bien plus complexe, car tous les nagas ne sont pas végétariens. La pratique du végétarisme dépend aussi du sous-groupe auquel ils appartiennent, selon qu'ils sont vishnouites ou shivaïtes. Ça dépend aussi du contexte d'activité, une ascèse stricte ou un engagement militaire. Les nagas Vaishnava, par exemple, sont les plus enclins au végétarisme en raison de leur interprétation stricte de l'ahimsa, tandis que les nagas shivaïtes, plus tournés vers les pratiques guerrières et rituelles, consomment parfois de la viande. On observe donc une véritable tradition des yogis guerriers, contrairement à cette image du yogi pacifiste. Et cette tradition des yogis guerriers atteint son apogée au XVIIIe siècle. Parce que ces guerriers vont s'émanciper de leur mission initiale de protection pour devenir de véritables forces politiques et économiques. Et grâce à leur armée disciplinée et puissante, ils vont se transformer en mercenaires et stratèges au service des Moghols, des Rajas ou des riches propriétaires terriens. Et cela, tout en consolidant leur influence dans les dynamiques de pouvoir de l'époque. Organisés en véritable armée et incarnant les valeurs spirituelles de Shiva, le seigneur des yogis, ces ascètes guerriers ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'Inde. Avec le temps, ils ont transformé les chemins de pèlerinage en véritables routes commerciales, consolidant ainsi leur pouvoir économique. Et outre leur rôle de défenseurs de monastères, les nagas sannyasis sont également devenus de grands propriétaires terriens. Grâce aux dons généreux des rajas et des riches fidèles, ils ont pu acquérir des terres agricoles qu'ils administraient directement ou qu'ils louaient à des paysans. Ainsi, en contrôlant des terres situées sur des axes commerciaux stratégiques, ils supervisaient et sécurisaient le passage des marchandises, ce qui leur permettait de percevoir des droits de passage et d'accroître considérablement leurs revenus. Cette gestion foncière conférait à ces yogis guerriers un rôle clé dans les échanges commerciaux et consolidait leur pouvoir économique et politique. De plus, leur influence économique allait de pair avec leur rôle militaire, puisqu'ils étaient aussi sollicités pour défendre les intérêts de leurs alliés politiques et garantir la sécurité des routes commerciales. Donc, il y a cette double fonction, spirituelle et militaire, qui leur assurait une position stratégique dans les dynamiques de pouvoir régional. Donc ces yogis au XVIIIe siècle n'étaient pas seulement des acteurs économiques, ils jouaient également un rôle clé dans des événements politiques majeurs, notamment l'unification du Népal en 1768, ou alors la fondation de la dynastie Gourkha, puisqu'ils ont même défié les ambitions britanniques. On comprend donc que ces guerriers ascétiques ont marqué leur époque par leur capacité à agir sur le monde. Il ne s'agissait pas de yogis reclus dans des grottes et dans des montagnes, mais des yogis qui agissaient dans la société. Et la question de leur rapport à la violence ne peut être envisagée indépendamment de ce rôle politique et économique. Elle nous pose en dernier ressort la question de l'action. En effet, l'ascète ou le yogi qui reste impliqué dans la vie sociale et qui prend part aux affaires du monde agit. Mais comment agir en limitant au maximum la violence? C'est à mon sens tout l'enjeu de la notion d'ahimsa et toute sa subtilité que nous allons maintenant pouvoir développer plus en détail. Donc, pour surmonter cette difficulté, la difficulté de l'action, de l'agir d'un yogi qui reste impliqué dans le monde, il est important de mieux comprendre la subtilité même de la notion d'ahimsa. Ici, l'anthropologue Véronique Bouillet nous aide beaucoup, puisqu'elle explique qu'ahimsa ne se limite pas à une simple interdiction de la violence, car Ahimsa plonge ses racines dans le cadre complexe du sacrifice védique. Donc ici, il faut se représenter Ahimsa comme non-désir de tuer, comme l'absence de désir de tuer. Ça implique une distinction fondamentale. Il s'agit de segmenter la mise à mort du désir de mise à mort. Et c'est là toute la subtilité. À ce titre, elle écrit « Il s'agit alors, par un jeu de métaphores et de réparation, puis de substitut, de séparer la mise à mort des victimes sacrificielles de toute idée de violence et d'échapper ainsi à ses conséquences redoutables. » Donc on comprend que, dans le cadre du sacrifice védique, il est impératif d'éviter d'offrir des victimes sacrificielles si l'on ne peut pas réparer soi-même rituellement ce meurtre. Ahimsa, c'est donc une non-violence focalisée sur le sacrifice et sur les moyens magico-religieux de se préserver et non pas une réflexion éthique sur la violence en général. Et on va voir que ce concept de sacrifice dans l'hindouisme va s'élargir au-delà des castes brahmaniques, au-delà du sacrifice que va faire le prêtre, mais va s'élargir au guerrier royal, puisque ce dernier chasse et tue, car, on l'a vu tout à l'heure, le régime à base de viande accroît sa virilité et lui donne la force dont il a besoin pour accomplir sa mission, préserver le dharma. La guerre et la chasse, pour le guerrier, sont ainsi perçues comme des sacrifices où l'absence de passion dans l'acte prévaut sur le simple fait de tuer. C'est cette morale qui est au cœur même de la Bhagavad Gita, qui valorise l'action désintéressée dans le respect du dharma. Et dans ce contexte, les rois, qui sont les garants de l'ordre cosmique et sociétal, incarnent cette vision. Le recours à la force, perçu comme un moyen de préserver l'équilibre global du monde, est légitimé par le dharma. Alors, pour eux, refuser d'agir dans un tel contexte, ce serait une faute grave. Dès lors, l'idéal de non-violence coexiste avec un recours ponctuel à la violence. Et l'ahimsa, dans ce cadre, ne se réduit plus à une non-violence formelle, enfin, ne se réduit pas à une non-violence formelle, et est définie, selon les mots de l'indianiste Colette Poggi, par l'absence de désir de nuire et par une adhésion rigoureuse au dharma qui prime sur toute autre considération éthique. Donc on comprend ici tout l'enjeu et toute la complexité de la notion d'ahimsa qui se situe à cheval entre l'idéal spirituel et la réalité sociale. Donc, la vocation individuelle des ascètes à la non-violence n'est en ce sens pas nécessairement contradictoire avec leur recours à la force. C'est une tension qui illustre le fait que la recherche personnelle de non-violence, elle ne peut se concevoir en dehors de tout lien social. Paradoxalement, la non-violence semble parfois assurée par la violence. Et dans ce cas-là, la véritable maîtrise réside dans l'intention qui guide l'action. Comme le rappellent Vidal, Tarabou et Meyer, je cite, « La non-violence que la violence autorise constitue un idéal social et spirituel qui inclut une défense armée, si nécessaire, pour protéger l'ordre et les valeurs ascétiques. » Ainsi, la recherche de la non-violence, à titre individuel, elle apparaît comme un choix de vie, un ordre de valeur qui ne saurait se concrétiser en dehors de tout lien social, y compris pour les ascètes, pour les yogis. Elle nécessite au contraire une insertion dans une forme de société qui rende cette quête possible. Donc, au vu de tout ce qui précède, on voit bien que lorsque l'on plonge dans les racines historiques et philosophiques de la notion d'ahimsa, les choses sont bien plus complexes et nuancées qu'il n'y paraît au premier abord. Donc, la non-violence, loin d'être une simple opposition au recours de la force, s'inscrit dans une dynamique subtile où la violence peut être tolérée à condition qu'elle soit exercée sans passion, avec retenue et en accord avec le dharma, c'est-à-dire l'ordre moral et cosmique. Dans cette perspective, le yogi guerrier, en respectant une forme de pragmatisme d'ahimsa, oscille entre l'idéal spirituel de renoncement et les réalités sociales, où l'action violente devient parfois nécessaire pour préserver un équilibre supérieur. Les développements qui précèdent sur la notion d'ahimsa et les yogis guerriers nous amènent en conclusion à repenser la représentation contemporaine du yoga. En effet, l'idéal d'un ascète indien totalement étranger à la violence et détaché de la richesse et du pouvoir semble plutôt relever d'une représentation simplifiée, fondée sur une vision manichéenne de la violence, opposant strictement le bien au mal. C'est aussi fondé sur une perception réductrice du contexte indien. Et cette vision s'ancre probablement dans des attentes orientalistes. Comme le souligne Rob Zabel, spécialiste de l'histoire et de la philosophie du yoga, je cite « Il existe en Inde de nombreux babas qui ne correspondent en rien à nos attentes orientalistes de saint homme pacifique, chaste et volontairement pauvre. En réalité, ils sont les vestiges d'armées sacrées qui dominaient autrefois de vastes régions de l'Inde, contrôler les routes commerciales, les lieux saints et les affaires militaires d'une grande partie du nord du pays. » Cette réflexion nous invite à repenser la représentation contemporaine du yoga, car on peut légitimement se demander à qui profite cette vision d'un yogi pacifiste coupé des réalités économiques et politiques et d'un yoga qui serait réduit à une pratique de bien-être, ignorant ainsi son rôle actif dans l'histoire de l'Inde et son potentiel d'influence dans les dynamiques sociales, politiques et économiques. Cette vision du yoga est loin des stéréotypes occidentaux d'apaisement et de retrait. Elle nous invite à réfléchir au rôle de l'action dans la quête spirituelle. Car au fond, le yoga ne consiste pas uniquement à rechercher un état de paix intérieur, il peut être aussi une manière d'agir dans le monde en naviguant entre non-violence et action juste. Voilà, j'espère que ce podcast sur la notion d'ahimsa, sur l'histoire des yogis guerriers et sur la subtilité de tout cela vous a plu. Et vous pouvez suivre tous les développements de ces thématiques sur mon blog Décrypter le yoga. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.